Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bonjour, Marianne Paquette avec vous pour cette émission de C'est bon pour la santé. Vous êtes sur Canal M. J'espère que vous allez bien en ce 2 juin, deuxième journée de la Semaine québécoise des personnes handicapées. On discute aujourd'hui en seconde partie d'émission de sexualité et surtout du fait que pour le parent d'un adolescent, ça peut être ardu, ça peut être difficile pour différentes raisons d'aborder ce sujet-là avec son ado et tout ce qui va autour de la sexualité, hein, la puberté, les changements hormonaux aussi. Eh bien, dites-vous que pour un parent d'un adolescent, d'un enfant autiste, d'avoir cette discussion-là, ça peut être encore plus complexe. Parce que les émotions de quelqu'un qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme, ben, ça ne s'exprime pas de la même façon. Les codes sociaux sont également plus difficiles à saisir pour eux. Et je pense que l'angle principal où ça blesse vraiment, c'est que les parents, les familles d'un enfant, d'un ado autiste, eh ben, ils manquent de services, ils manquent d'encadrement en ce sens. Émilie Robitaille, elle est infirmière, elle est candidate à la maîtrise en sciences infirmières et justement, elle s'intéresse à ce sujet, la sexualité des enfants, des adolescents autistes. Donc, elle aura plein d'outils à nous livrer tout à l'heure. Également, cette Semaine québécoise des personnes handicapées, ben, c'est un moment pour tout le monde, pour différents acteurs de la société, de faire un bilan et de se dire, oui, peut-être qu'en 20 ans, il y a eu des progrès certains en matière d'inclusion, de meilleure qualité de vie des personnes handicapées, de leur famille, de leur entourage aussi, mais il y a encore des enjeux importants, des enjeux qui sont très actuels en matière de travail, de transport, de santé et également là, avec les derniers mois, avec tout ce qui se passe de réduction des services hein, et sur lequel il faut se pencher d'une part, mais aussi agir, que ce soit par des petits gestes du quotidien, ça nous concerne tous, mais aussi par de grandes politiques, des grands plans d'action. Et pour ça, on doit pouvoir compter sur notre gouvernement pour le faire. Et c'est justement le sujet que j'aborde avec Lucie Charlebois. Elle est ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie. Lucie Charlebois, bonjour.
Bonjour, vous allez bien?
Je vais très bien, vous-même?
Oui, ça va super bien.
Merci d'être avec nous en cette Semaine québécoise des personnes handicapées. Donc, 20e édition, ce qui signifie 20 années d'efforts, de réflexion en ce qui a trait à tenter d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, leur inclusion aussi. Selon vos observations, Lucie Charlebois, quels sont les progrès qui ont été effectués en matière d'intégration sociale auprès des personnes handicapées ici au Québec?
Bien, il y a plusieurs progrès. Je pense notamment à l'intégration des enfants handicapés dans les services de garde éducatif à la petite enfance, en milieu scolaire, l'accès aux étudiants handicapés aux études supérieures. Il y a eu aussi des progrès, notamment à l'égard de l'exercice du droit de vote. Il y a plusieurs possibilités de s'engager socialement dans les communautés, mais est-ce qu'il reste du travail à faire? Oui.
Oui.
Et je pense que ce sera le travail d'une vie, parce que tout au long de la vie, il y a des choses qui arrivent qu'il faut qu'on fasse en sorte de faciliter l'accès à ceux qui ont une différence.
Oui, évidemment, et vous le dites, il faut continuer à réfléchir, continuer aussi à implanter des actions pour améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. Quelles sont vos priorités en ce sens pour le reste de votre mandat?
Bien, écoutez, vous savez qu'on a déposé le plan d'action 2015-2019.
Oui.
On avait déjà eu un premier plan, là, mais c'était en fait... On a déposé quelque chose sur 10 ans, mais là, le deuxième plan d'action a été déposé l'année dernière, en juin. Et ce qu'on souhaite vraiment, c'est qu'il y ait des répercussions concrètes dans le quotidien des personnes handicapées et ou de leurs proches, évidemment, parce qu'il y a toujours des proches impliqués, mais que ce soit sur le transport adapté, le soutien aux familles, l'accès à la justice, l'accessibilité aux lieux publics.
Mm-hmm.
On a encore beaucoup de travail à faire. Et c'est pour ça que cette semaine est là. En fait, ce qu'on souhaite, c'est sensibiliser toutes les Québécoises et tous les Québécois,
ouais,
à la participation sociale des personnes handicapées dans notre collectivité, parce que c'est ensemble qu'on va réussir à travailler ça. C'est pas juste une affaire du gouvernement, c'est pas juste une affaire d'entreprise, c'est pas juste une affaire d'instance, c'est tout le monde ensemble. Il faut qu'on change notre façon de voir les choses, que nous puissions avoir une attitude positive envers la participation qu'ont ces gens-là dans notre société. Bref, ce que j'ai dit dans ma déclaration tantôt quand on a fait une motion en chambre, c'est qu'on veut que ces gens-là puissent contribuer à la société. On a grandement besoin de leur expertise et de tout ce qu'ils peuvent accomplir. Il faut qu'on leur permette de s'épanouir comme tout le monde dans la société.
Oui, ils font partie du développement de notre société. Lucie Charlebois, près de 33 % de Québécois vivent avec une incapacité, une limitation fonctionnelle. Si l'on pense à leur famille, ça fait beaucoup de gens interpellés, beaucoup de gens touchés. Et en même temps, j'ai l'impression que cette semaine québécoise des personnes handicapées, ben, elle pourrait résonner davantage. Est-ce qu'il y a un moyen d'aller toucher encore plus davantage le grand public?
Bien, en fait, on a, pendant cette semaine-là, on a des porte-paroles, comme vous le savez, qui vont faire toutes sortes d'activités. Mais il y a aussi l'Office des personnes handicapées qui va être en tête de liste, qui va faire valoir tout ce qu'on a à faire connaître aux gens, mais je vous dirais que dans tout ce qu'il y a, il y a une campagne publicitaire qui va se dérouler là, entre la mi-mai puis le 7 juin, et il y aura plein de choses, il y a des vidéos, il y a des feuillets, il y a des... Vous savez, la dernière campagne, là, en 2015, elle a été très, très, très positive, bien qu'on pense qu'on ne rejoint pas grand monde, on a rejoint tout près de 1 500 000 internautes, juste internautes avec la campagne web. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a, tu sais, Monsieur Deschamps qui est le porte-parole. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire pendant toute cette période de sensibilisation-là. Mais ce qu'il faut, c'est que nous puissions, comme société, nous arrêter et réfléchir correctement, là. Puis il faut qu'on agisse contre les préjugés et la discrimination qui est faite, rendre les environnements accessibles. Parce que vous savez, ces personnes-là sont souvent en situation de pauvreté. Parce qu'ils peuvent pas contribuer, comme je vous le disais, comme d'autres personnes. Et il faut travailler à les aider, eux aussi, à s'intégrer, à pouvoir justement contribuer à la société. J'ai pas d'autres mots. Vous savez, juste ce que j'ai réussi à travailler là pour les mesures pour aider les familles qui ont des enfants lourdement handicapés.
Oui.
J'en étais très fière de faire l'annonce l'autre jour. J'ai fait un peu plus d'un an que je travaille là-dessus et il s'est dit toutes sortes de choses, mais j'ai toujours eu à cœur de travailler pour ces personnes-là parce que je savais qu'il y avait un besoin.
Oui, une annonce qui a été faite à la mi-mai, Lucie Charlebois, donc, pour mettre les auditeurs en contexte, pour amener une aide supplémentaire du gouvernement du Québec aux familles qui ont soit des enfants lourdement handicapés ou encore gravement malades. Une aide soit financière ou encore sous forme de service. Est-ce qu'on en sait davantage là-dessus?
Bien, les critères, en fait, c'est pour les familles qui ont des enfants très lourdement handicapés. Mm-hmm. Et on a annoncé qu'on allait les aider. Et oui, il y a une partie qui inclut des services, mais il y a une partie monétaire. Il y a tout a été pris en compte là, de ce que ces personnes-là touchent puis versus l'objectif final. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les critères vont être connus vers la fin juin. Et ça va être mis en application en septembre et rétroactif au 1er avril. Alors, j'étais très, très fière d'annoncer ça parce que je le sais que c'était très attendu.
Oui,
je pouvais pas parler tout au long des travaux parce que tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Mais c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que nous aurons d'autres choses à faire, notamment sur les activités socio-professionnelles et communautaires? Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les milieux scolaires, qui ont différents handicaps, et quand arrive l'âge de la fin des études, ben c'est dommage, mais ces personnes-là se trouvaient devant pas grand-chose. Alors, il faut qu'on travaille sur les activités socio-professionnelles et communautaires, notamment pour les familles qui ont des enfants autistes. J'ai, entre autres, visité le 26 mai dernier l'intégration ITSA, et je suis allée là parce que je voulais voir comment ils font ça. Justement, c'est du socio-professionnel. Ils les font travailler des choses qui sont redistribuées dans la société ou revendues, mais à la mesure de leur capacité, parce que c'est clair que ceux qui ont des handicaps peuvent pas travailler avec la même rapidité que quelqu'un qui en a pas. Là. Alors, il y a aussi la coopérative Adirondack que j'avais visitée, à laquelle on a consacré un projet pilote, parce que là aussi, ils travaillent à faire en sorte que ce qui se fait pas dans une industrie, une chaîne de production sur des casques de vélo, eux autres peuvent faire des petites pièces, ils prennent des contrats, mais c'est pas intégré dans la chaîne, c'est en dehors, pour leur permettre de travailler à leur façon, à leur vitesse. Et moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille aussi, pour que ces gens-là...
Sur le plan professionnel, sur le plan de l'éducation, des communications, il y a vraiment beaucoup d'aspects à considérer en ce qui a trait à l'inclusion et une meilleure intégration.
Oui, oui, vous avez tout à fait raison, mais il faut qu'on fasse ça ensemble, parce que, comme je vous le disais, c'est pas juste une affaire gouvernementale. Puis vous savez, je dis souvent la blague, le gouvernement, c'est pas la troisième personne du Saint-Esprit, là. C'est les impôts. Et tu sais, moi, là, quand je fais partie d'un gouvernement, on gère les impôts et les taxes que les citoyens paient pour répartir à travers ceux qui ont des besoins. Ça, c'est une chose, mais il faut que nous, comme citoyens, puissions contribuer à faire en sorte que nous aplanissions les difficultés qu'ont ces gens-là.
Est-ce que vous savez, Lucie Charlebois, avec cette aide supplémentaire du gouvernement du Québec, combien vous arriverez à soutenir, aider de familles avec des enfants lourdement handicapés ou gravement malades?
Oui, bien, avec la mesure dont on parle, je suis pas en mesure de vous dire exactement le nombre de familles parce que les critères sont pas terminés. Mais dès qu'on aura l'ensemble des critères, on va être capable de dire il y a exactement de familles, tant de familles qui sont touchées par cette mesure-là.
Oui, évidemment, on sera là pour observer ça de près. En terminant, je vais vous parler de cette loi 44. 31 mai dernier, c'était cette journée mondiale sans tabac. C'est également l'une de vos priorités de lutter contre le tabagisme ici au Québec, notamment pour protéger les jeunes.
Yes. Vous sentez la spontanéité dans moi. Hein? Ben, ce qu'on souhaite, c'est en fait prévenir, faire en sorte que les jeunes ne commencent pas à fumer. Il faut les protéger de la fumée secondaire, mais pas juste les jeunes, l'ensemble de la population, mais je pense particulièrement les jeunes, parce que vous savez que dans la fumée secondaire, il y a 4000 substances, dont 70 cancérigènes. Et quand on laisse des enfants se faire envahir par cette fumée secondaire, ça développe des dépendances au même titre que fumer, hein?
Oui.
Alors, c'est tout ça qu'on veut les protéger, mais aussi ce qu'on souhaite, c'est aider ou favoriser l'arrêt tabagique. Alors, moi, la loi 44, j'y tenais beaucoup. Les terrasses, les gens, honnêtement, je suis emballée de voir la réaction des gens. C'est sûr qu'il y aura toujours quelques irréductibles, mais je les comprends. Je veux pas juger le monde qui fume. Je suis une ancienne fumeuse. J'ai réussi à arrêter. Ce que je dis aux gens qui tentent d'arrêter, ça m'a pris plus qu'une fois. Puis c'est comme ça pour tout le monde. Faut aller chercher de l'aide. C'est difficile. On en est conscient. Puis j'ai pas de jugement à porter sur ceux qui fument. Je leur demande juste de respecter le 80% qui ne fument pas.
Voilà, respecter les non-fumeurs. Et aussi, vous nous préparez une politique en prévention de santé, Lucie Charlebois.
Hey, vous en savez des choses.
Oui.
Oui, et j'ai très, très hâte de pouvoir lancer cette politique de prévention en santé. C'est aussi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mais vous savez que je prépare un plan d'action justement pour l'autisme aussi, à l'automne. Je vous le dis, on n'est pas... on travaille
vous
pas.
Vous ne chômez pas, voilà.
Non, mais je suis une passionnée. Et j'aime ça, venir en aide aux gens qui ont besoin, parce que je me dis qu'un jour, ça peut-être être mon tour. Je ne le souhaite pas, mais sachez que je suis préoccupée par le sort de tous nos concitoyens.
Et parce que, je vous cite, la santé, c'est une richesse qui est individuelle, mais également collective, autant comme la participation citoyenne des personnes handicapées. Lucie Charlebois, vous êtes ministre déléguée à la réadaptation à la protection de la jeunesse, santé publique et aux saines habitudes de vie. Merci beaucoup et une très belle semaine québécoise des personnes handicapées à vous et à votre équipe.
Bien, merci beaucoup de m'avoir permis de m'adresser à la population.
Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@vuzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Bonjour, Émilie.
Bonjour. ça va bien?
Ça va très bien, vous?
Oui, merci.
Émilie Robitaille, infirmière, candidate à la maîtrise en sciences, infirmière, consultante pour le défi sportif Altergo. Émilie, ça fait 5 ans que vous travaillez auprès des familles d'enfants autistes en tant qu'infirmière. D'ailleurs, vous avez décidé de baser votre maîtrise sur la normalisation de la sexualité des personnes autistes. Je pense que le tabou auquel vous êtes le plus souvent confronté, c'est 1, les personnes autistes ont une sexualité.
Effectivement, d'abord, si on aborde le sujet de la sexualité des personnes autistes aujourd'hui, c'est qu'il y a encore certaines personnes qui considèrent d'emblée que les personnes qui ont des limitations fonctionnelles n'ont pas de sexualité.
Mm-hmm.
Cette croyance est probablement fondée sur les critères de performance qui sont souvent associés à la sexualité dans les médias. Puis pourtant, pour une majorité d'entre nous, la sexualité se vit dans le plaisir et les émotions.
Oui.
Donc, si on veut favoriser une éducation à la sexualité pour les personnes autistes, à mon avis, il faut d'abord changer de paradigme et aller vers une normalisation de la sexualité pour les personnes autistes. Puis ensuite, pour créer des programmes d'éducation à la sexualité qui vont être adaptés aux besoins des personnes autistes, il faut recueillir directement auprès d'eux leur expérience quant à la sexualité.
Ça signifie quoi pour les gens qui nous écoutent, Émilie, la normalisation de la sexualité?
Dans le fond, la normalisation, c'est de considérer que la clientèle autiste a une sexualité.
Oui.
Puisqu'on a le phénomène dans la société qui s'appelle le phénomène d'asexualisation des personnes qui ont des limitations fonctionnelles. Donc, c'est comme j'expliquais plus tôt que certaines... Il y a des croyances que les personnes qui ont des limitations fonctionnelles n'ont pas de sexualité.
Bon, maintenant, est-ce que la sexualité des enfants, des adolescents autistes, elle peut s'exprimer de façon différente qu'une personne neurotypique, par exemple?
Effectivement, parfois, la sexualité des personnes autistes va s'exprimer différemment, soit, disons, maladroitement ou de manière inappropriée. Donc, les personnes autistes vont rencontrer des limitations sociales ou émotionnelles qui vont se traduire par la difficulté d'établir des relations sociales et une confusion en lien avec les normes sociales.
Mm-hmm.
Donc, par exemple, si on parle, dans le fond, il se peut qu'une personne autiste voulant exprimer qu'elle trouve le chandail beau de son amie va s'approcher d'elle et lui toucher le chandail au niveau de la région des seins simplement pour ressentir la texture du chandail. Mais au niveau des normes sociales, c'est mal vu, évidemment.
Oui. Mais en même temps, et vous me corrigez si je me trompe, j'ai l'impression que leurs besoins sont plutôt semblables et sont les mêmes là, que n'importe qui dans la société.
Effectivement, il y a plusieurs écrits qui avancent que la sexualité des personnes autistes est similaire à la sexualité des personnes autistes,
mm-hmm.
Des personnes neurotypiques. Donc, si on prend des exemples tirés des écrits scientifiques, certains auteurs comme De Winter et Associés disent que 82% des personnes autistes vont avoir dit être déjà tombées en amour, contrairement à 85,6% des personnes neurotypiques. Donc, c'est très similaire comme statistique. Ensuite, si on parle, il y a 70% des participants dans l'étude en question qui disent avoir déjà fréquenté une autre personne, tandis que pour les personnes neurotypiques, la prévalence se situe à 73,3%.
Mm-hmm. Donc, on se rend compte qu'ils ont aussi ce besoin d'être en contact avec les autres, d'être en amour et de vivre une relation intime.
Exactement. Au niveau des comportements sexuels, chez la clientèle autiste, une inquiétude plus grande pour les parents, c'est tout ce qui est en lien avec la sexualité solitaire, donc les comportements de masturbation, puisqu'ils vont être très fréquents auprès des personnes autistes.
Okay.
Et parfois, ça va être fait dans des lieux publics, et c'est important de leur apprendre les lieux qui sont appropriés pour la masturbation.
Justement, parlons-en de l'inquiétude des parents, d'ados ou d'enfants autistes, Émilie, parce que vous en connaissez beaucoup, vous travaillez avec ces familles-là Quelles questions sont récurrentes? Qu'est-ce que vous entendez auprès de ces familles-là?
Souvent, il va y avoir des difficultés au niveau social. Donc, la clientèle autiste va être désavantagée socialement. Donc, comment on peut aider notre enfant à entrer en relation adéquatement avec les autres personnes? Évidemment, étant donné que un peu moins d'éducation sexuelle fait auprès de cette clientèle-là, il va y avoir moins d'opportunités sociales d'apprentissage. Donc, ils vont moins avoir la possibilité de regarder ce que leurs pères font. D'autres questions, ça peut être en lien avec une caractéristique qui est souvent associée à l'autisme, qui est l'hypo ou l'hypersensibilisé, l'insensibilité. Ça va créer souvent des désagréments au niveau de la sexualité. Les personnes autistes vont trouver désagréables certains comportements sexuels.
Je le disais tout à l'heure en introduction, Émilie, pour un parent d'adolescent, c'est pas toujours aisé d'aborder des notions de sexualité avec notre enfant. Il y a la gêne, il y a l'éducation que l'on a reçue, des craintes que l'on a également en tant que parent. Avez-vous l'impression que les parents, les familles d'enfants autistes ont encore peut-être plus d'obstacles devant eux pour aborder ces questions-là avec leur enfant?
En effet, je crois que d'aborder la sexualité avec son enfant, ça peut être pour certaines personnes malaisant. Mais pour les parents d'enfants autistes, ce qui est difficile, c'est aussi d'aller chercher des ressources. Oui. Donc, à qui on s'adresse pour avoir les ressources pour aborder le sujet de la sexualité avec notre enfant? Donc, ce que je peux conseiller, souvent auprès, dans le fond, il y a plusieurs professionnels de la santé qui gravitent autour de l'enfant autiste. Donc, les personnes qui peuvent être outillées à aider les parents, ça peut être soit l'éducateur spécialisé, une infirmière, un psychologue ou une sexologue.
Et vous conseillez quoi aux parents qui nous écoutent pour amorcer cette discussion-là avec son enfant autiste?
D'abord, la sexualité, ça commence en jeune âge. Donc, les parents peuvent profiter de l'heure du bain pour apprendre les différentes parties du corps à leur enfant, puis travailler la différenciation sexuelle, donc les caractéristiques spécifiques des garçons et des filles. Ensuite, on peut aborder la notion, plus l'enfant vieillit, on peut aborder la notion d'intimité. Donc, mon corps m'appartient. Et ensuite, on peut regarder la notion de reproduction. Lorsque l'enfant devient plus autonome, les parents peuvent aborder la notion d'hygiène, les conventions sociales, donner un aperçu des différentes orientations sexuelles. Plus que l'enfant va s'approcher de la puberté, les sujets comme les changements hormonaux et les changements physiques qui vont accompagner la puberté et la contraception doivent être discutées.
Le consentement aussi, j'imagine?
Effectivement, le consentement. Donc, être en mesure de dire oui ou de dire non, de faire des choix en rapport avec sa sexualité. Plus particulièrement avec la clientèle autiste, c'est important de discuter au niveau relationnel et émotionnel. Donc, de quelle manière ils doivent entrer en contact avec les autres, comme j'ai mentionné plus tôt, puis comment ils peuvent parler de leurs émotions.
Oui. Si notre enfant, notre adolescent a justement des difficultés à entrer en relation ou de la difficulté à saisir certains codes sociaux, comment on peut l'aiguiller ou l'encadrer en ce sens?
Ça commence en jeune âge. Je pense que quand on va dans des lieux publics, puis notre enfant peut être intéressé à aller discuter avec un autre enfant, c'est de l'accompagner à une certaine distance, puis de peut-être l'aider, puis de lui indiquer la bonne manière de faire, de se présenter d'abord et ensuite d'introduire un sujet là, qui va sembler intéressant pour l'autre personne.
Donc, de maximiser les relations sociales, les interactions sociales dès le plus jeune âge.
Exactement.
Et aussi de semer peut-être, et c'est peut-être une difficulté auquel vous êtes confrontée, Émilie, auprès de ces parents qui veulent surprotéger leur enfant a un handicap, évolue avec parfois certains obstacles depuis quelques années, et là, il arrive à cet âge de grande transformation, et bien, la surprotection, peut-être ça fonctionne un peu moins à ce moment-là de la vie.
Effectivement, il y a certains parents qui vont avoir des craintes d'aborder le sujet de la sexualité avec leur enfant. Donc, c'est pas parce qu'on aborde la sexualité que ça va nécessairement encourager des comportements sexuels. Au contraire, à mon avis, je crois que d'en discuter, ça va favoriser l'épanouissement de son enfant dans le développement de sa sexualité.
Oui. On associe parfois la prévalence de l'homosexualité avec la clientèle autiste, avec les personnes autistes. Est-ce qu'il y a réellement un lien à faire, Émilie?
Il y a plusieurs études qui révèlent une prévalence plus importante d'homosexualité dans la clientèle autistique. Mais au-delà des hypothèses qui sont mises de l'avant, il faut s'arrêter et faire en sorte que notre discours ne soit pas teinté d'hétéronormativité. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il faut considérer les différentes orientations sexuelles. De cette manière, on va favoriser un bien-être sexuel et l'épanouissement de notre enfant.
Oui. Ça aussi, c'est en lien avec la normalisation de la sexualité, à quelque part.
Effectivement, c'est relié... si on dit que la sexualité est tabou chez la clientèle autiste, on parle aussi encore aujourd'hui des tabous qui sont reliés à l'orientation sexuelle.
Et pour vous, Émilie Robitaille, c'est l'objectif de favoriser ou du moins de générer des ressources pour ces familles-là. C'est un petit peu l'objectif derrière ce sujet de maîtrise.
Effectivement. En fait, moi, je veux... mon objectif, c'est d'aller chercher les expériences positives que la clientèle autiste peut vivre relativement à leur sexualité, puis de les mettre de l'avant afin de voir comment on peut potentialiser ces expériences-là en tenant compte du réseau de la personne autiste.
Et maximiser le potentiel de ces jeunes-là aussi.
Effectivement.
Qui ont beaucoup à apporter à notre société. Émilie Robitaille, vous êtes infirmière, candidate à la maîtrise en sciences infirmières et également consultante pour le défi sportif Altergo. De bonnes chances dans vos études, Émilie.
Merci beaucoup.
Ça a été un plaisir. Au revoir.
Au revoir.
C'est Jean-Sébastien Laliberté derrière sa console qui a un petit peu plus oublié de démarrer ce thème. Marianne Paquette au micro. Merci d'avoir été des nôtres ces derniers quelques jours. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Ce sera la dernière semaine de la saison pour C'est bon pour la santé. On continuera d'aborder ensemble des sujets qui sont liés à cette semaine québécoise. Des personnes handicapées également. Une grande table ronde avec des parents endeuillés à savoir comment on peut survivre au décès par suicide de notre enfant. Et également avec la participation de Pascal Abadie, qui est psychiatre du côté de Rivière-des-Prairies. Et une surprise aussi pour notre dernière émission, je vous réserve une invitée hors de l'ordinaire qui, j'espère, saura vous inspirer. Portez-vous bien d'ici là. Je vous embrasse. Bye bye.